Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Des leaders latino-américains participent au sommet sur l'inflation. Le Congrès péruvien rejette la destitution de la présidente Dina Boluarte. Le Mexique nationalise 13 centrales électriques. Le principal groupe de narcotrafiquants colombiens rejette la proposition de paix du gouvernement. Au Guatemala, la légitimité des scrutins de juin remise en cause. Coup d'envoi du procès en destitution du président en Équateur. Un sommet des présidents latino-américains sur l'inflation a eu lieu le 5 avril. La réunion a été convoquée par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Y ont participé ses homologues argentins, Alberto Fernández, bolivien Luis Arce, Lula da Silva du Brésil, le chilien Gabriel Boric, le colombien Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel de Cuba et Xiomara Castro du Honduras. Les premiers ministres du Belize, Juan Antonio Briceño, et de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Everard Goncalves, étaient également présents. Les dirigeants ont discuté d'éventuelles initiatives conjointes pour lutter contre l'inflation. Cette réunion est un prélude à un sommet prévu pour le mois de mai à Mexico. Au Pérou, le Congrès a rejeté une motion de destitution de la présidente Dina Boluarte. La requête portait sur la responsabilité de la présidente dans la mort de plusieurs manifestants lors de la dernière vague de protestations. Au Parlement, la demande de destitution a reçu 64 voix contre, 37 pour et 10 abstentions. Après la séance, Boluarte s'est félicité sur Twitter que le respect de l'ordre constitutionnel et de la démocratie prévalent dans des circonstances où nous devons maintenir l'unité et la stabilité du pays. Boluarte, issu d'un coup d'État, a été mis en examen pour la répression des manifestations qui ont fait une soixantaine de morts. Les protestations ont éclaté en décembre dernier, peu après qu'elle ait succédé à l'ancien président Pedro Castillo, qui avait été destitué pour corruption présumée. C'est ce dont parle RFI.
La colère ne retombe pas dans le sud du Pérou. 4 mois maintenant, presque jour pour jour, après la destitution de Pedro Castillo et l'arrivée au pouvoir de la vice-présidente Dina Boluarte, des manifestations continuent, en particulier dans la région de Puno, dans cette région où l'ex-président avait obtenu 90% des voix en 2021. Les blocages, les marches de protestation sont quotidiens, mais pour combien de temps encore ? Élément de réponse dans ce reportage de Juliette Chénion.
Depuis 3 mois, sur les routes de la région Aymara, les mêmes slogans et la même méthode pour protester.
Ce qu'on fait ici, c'est bloquer la route. C'est le seul moyen de se faire entendre. Et il y a beaucoup de piquets de grève comme celui-ci jusqu'à Desaguadero, à la frontière bolivienne.
Cet homme est l'un des dirigeants du village de Chinchera. Il garde avec des dizaines d'habitants le barrage. Un barrage fait de grosses pierres et d'un monticule de terre. Ici, tout le monde vit de l'agriculture. Et depuis 3 mois, au rythme des jours de blocage et d'ouverture de la route.
Bien sûr, il y a un risque de ne pas réussir. Certains nous disent qu'on a déjà perdu, mais nous restons déterminés. Et si ça ne marche pas, nous tenterons autre chose. Peut-être bloquer les mines ou les barrages hydroélectriques, mais on va continuer. Nous, le peuple Aymara, on a toujours été des rebelles.
Pour les habitants des environs, il faut donc s'adapter. Delia, venue de la ville, Puno, à 20 km de là, profite de l'ouverture du passage en fin de journée.
C'était bloqué toute la semaine dernière, je vais donc porter des vivres à ma sœur. En vérité, cette grève nous affecte beaucoup dans le sud du Pérou. Ce qu'on réclame, c'est la destitution de Dina Boluarte, le renouvellement du Congrès et surtout une nouvelle constitution.
Delia arrive au barrage suivant. Une condition pour passer, prêter allégeance au mouvement. Ses conducteurs se plient à la règle tous les jours.
Bon, eh bien, nous allons chanter un slogan pour avoir le droit de passer.
La vieja no renuncia.
Les dirigeants du village, comme cet homme le savent, des critiques commencent à s'élever contre le mouvement.
Beaucoup de gens nous applaudissent, mais d'autres nous critiquent, parfois nos propres frères, car ça leur porte un peu préjudice. Nous-mêmes, ça fait un bon moment qu'on ne travaille plus. Nous vivons sur nos économies et on mange les aliments qu'on a récoltés. On vit avec ça.
L'argent, élément déterminant pour faire durer les protestations. À Puno, ces derniers jours, des commerçants demandent à pouvoir travailler. Dans le secteur du tourisme, les conséquences sont aussi difficiles. Elias, guide originaire de l'île de Taquile, a perdu du chiffre d'affaires.
C'est une perte de presque 99%, je dirais, parce qu'il n'y a pas du tout de tourisme.
Mais Elias soutient aussi la cause.
La grève est juste. Elle est juste pour les communautés, car toutes les richesses qu'a le Pérou, l'État laisse le privé les exploiter, et ça ne va pas en notre faveur.
Sur le port de Puno, Juan, 58 ans, prend un café dans un restaurant vide. Juan est lui aussi en grève, même si pour le moment les manifestants n'ont rien obtenu, à part un plan d'aide pour la région annoncé par la présidente, des subventions et l'envoi de matériel.
Ce n'est pas suffisant. Les gens maintenant sont dégoûtés. On pourrait pardonner au gouvernement si seulement il n'avait pas tué autant de manifestants. Les ministres aimeraient nous parler, mais les gens d'ici n'en veulent pas.
Cette semaine, les blocages n'ont lieu que le mardi et le mercredi, un rythme plus faible que les semaines précédentes. Dans le centre-ville de Puno, les manifestations sont de moins en moins importantes et Puno est désormais la seule région encore en grève au Pérou. Juliette Chénion, Puno, RFI.
Des protestations qui se poursuivent donc à Puno pour dénoncer la destitution de Pedro Castillo, l'ancien président qui reste en détention préventive. C'est ce qu'a confirmé une cour d'appel il y a quelques jours.
Le Mexique nationalise 13 centrales électriques suite à un accord avec l'entreprise espagnole Iberdrola qui recevra 6 milliards de dollars. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé sur Twitter ce qu'il a appelé la nationalisation. Les 13 centrales, a-t-il expliqué, feront partie du patrimoine public et seront exploitées par la Commission fédérale de l'électricité. Ainsi, nous garantissons que les prix n'augmenteront pas pour les consommateurs, comme c'est le cas depuis 4 ans, a déclaré López Obrador. De cette manière, l'État mexicain augmentera de 39 à 55% sa capacité sur l'ensemble de l'électricité produite dans le pays nord-américain. En Colombie, le principal cartel de la drogue a rejeté la proposition de paix du gouvernement dirigée par le président Gustavo Petro, qui, avant, avait annoncé la fin du cessez-le-feu pour ne pas avoir respecté la trêve. Le clan du Golfe a fait savoir qu'il n'acceptait pas les conditions de soumission à la justice proposées par Bogota. L'avocat du groupe criminel, Ricardo Giraldo, a annoncé que ses clients souhaitaient remettre leurs armes par le biais de négociations et non en se rendant aux autorités. Le groupe de narcotrafiquants souhaite bénéficier du même traitement que les guérillas de gauche, telles que l'ELN, qui dialoguent avec le gouvernement. Petro avait entamé des contacts avec le clan dans le cadre de sa stratégie de paix totale visant à mettre fin à la violence armée en Colombie. Il avait proposé au cartel une réduction des peines et la possibilité pour les chefs de conserver une partie de leur fortune en échange de leur reddition. Par ailleurs, le Parlement colombien tente une nouvelle fois de réglementer la gestation pour autrui qui divise la société et la classe politique. Et jusqu'à présent, toutes les tentatives pour élaborer une loi ont échoué. Voici un rapport de RFI sur les deux sujets.
Dans la presse américaine, le Washington Post publie un reportage très rare en immersion avec un groupe armé colombien.
Ce groupe armé, c'est le clan du Golfe, avec lequel le président Gustavo Petro a annoncé la fin du cessez-le-feu il y a 2 semaines à peine. L'organisation criminelle, décrite par une chercheuse, citée dans l'article comme une gigantesque entreprise de trafic de drogue en Colombie, eh bien, donc, cette organisation est accusée par le gouvernement de ne pas avoir respecté la trêve. Des journalistes du quotidien américain sont allés à la rencontre de membres du clan du Golfe, dans la campagne vallonnée et verdoyante du centre de la Colombie, des villages où l'organisation criminelle remplace un État absent en tranchant des conflits entre habitants ou en finançant des frais de santé que la commune ne peut pas payer. L'organisation veut négocier avec le gouvernement, dit l'un des leaders rencontrés par le journal. Cela, par exemple, si ses membres disent la vérité sur les crimes commis en échange d'une amnistie, par exemple. Or, d'après les chercheurs cités par le journal, le groupe a profité du cessez-le-feu décrété fin décembre pour étendre ses activités et n'a en ce moment aucun intérêt à céder quoi que ce soit lors de négociations de paix.
Alors que ces négociations de paix, elles sont au centre du programme du président Petro.
Oui, une paix totale, selon les mots de Petro, paix totale qui a du plomb dans l'aile, d'autant plus après un attentat meurtrier la semaine dernière contre des soldats par un autre groupe armé, c'est ce que rappelle le média colombien Semana. Parmi les groupes encore actifs dans le pays, les dissidents des FARC, c'est-à-dire des guérilleros qui n'ont pas accepté la paix signée en 2016 avec cette guérilla, eh bien, ces dissidents se sont dit prêts hier à des négociations de paix officielles. On les entend dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mais pas sûr cependant que cette nouvelle suffise à relancer vraiment le projet de paix totale.
On va rester en Colombie où un dossier très sensible doit être étudié aujourd'hui par le Parlement, la question de la gestation pour autrui, pour essayer une nouvelle fois de réglementer le recours aux mères porteuses. La question ne sera pas facile à trancher. Elle divise beaucoup la société et la classe politique colombienne, comme le montre ce reportage de Najet Benrabah.
Il n'existe pas de statistiques précises sur la pratique de mères porteuses en Colombie, mais on estime que plus de 400 Colombiennes décident de le devenir chaque année. Lina Martin est l'une d'entre elles. Cette travailleuse sociale, mère de deux enfants, a été mère porteuse à deux reprises il y a quelques années.
La première fois que j'ai fait ça, c'était par le biais d'amis. Ils m'ont parlé d'un couple hétérosexuel qui avait besoin d'une mère porteuse car la femme est née sans utérus. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais être mère, donc elle cherchait une solution. On a fait le processus avec son ovule et le sperme de son mari. C'était vraiment émouvant de pouvoir les aider. Et bien sûr qu'ils ont pris en charge tous mes besoins financiers durant la grossesse. Ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs.
Lina assure que son mari et ses enfants étaient au courant et qu'ils ont suivi tout le processus. Aujourd'hui, le débat au Congrès l'inquiète.
C'est très bien que la pratique soit complètement réglementée, mais les propositions de loi actuelles me paraissent mauvaises, car elles interdisent par exemple le recours aux mères porteuses pour les étrangers, alors qu'il y a des étrangers qui viennent en Colombie pour adopter ou pour tout type de tourisme médical. Ce n'est pas logique qu'ils ne puissent pas avoir accès à la gestation pour autrui.
En effet, parmi les idées proposées pour réguler le recours à une mère porteuse, il y a la fin de la pratique commerciale, la limitation du nombre de grossesses et l'interdiction de son accès aux étrangers. Alejandro Ocampo, député à la Chambre des représentants du parti politique Pacte historique.
La future mère porteuse doit avoir plus de 24 ans et au moins un enfant. On ne peut avoir recours à la gestation pour autrui qu'une seule fois, car si on l'autorise plusieurs fois, cela devient un commerce. Ensuite, les femmes qui veulent être mères porteuses devront faire une visite au service de l'enfance et de la famille de l'État pour qu'on leur explique clairement ce que signifie la gestation pour autrui. Elles doivent comprendre les droits qu'elles perdront sur l'enfant, les problèmes que la grossesse peut engendrer. On fera un examen psychologique pour être sûr qu'elles ne subissent aucune pression. Elles doivent être conscientes de ce qu'elles vont faire.
L'autre point important dans les débats, c'est l'aspect bioéthique de la pratique. Pour Angelica Bernal, psychologue et chercheuse, titulaire d'un magistère en bioéthique, il faut mettre en place un outil de contrôle.
Tout être humain doit promouvoir la protection d'autrui car c'est un devoir moral. Donc dans cette question éthique, on s'interroge sur la manière de protéger l'autre, la manière d'éviter d'utiliser l'autre pour ses propres intérêts.
Enfin, il y a aussi les opposants à la pratique, comme Maria Cristina Hurtado. Cette avocate est défenseuse des droits des femmes, enfants et adolescents. Pour elle, la Colombie doit interdire le recours aux mères porteuses, tout comme l'a fait l'Italie, la France ou l'Espagne.
On pense qu'avant de réguler un commerce qui n'est pas éthique et qui transforme les femmes et les enfants en objets, on doit construire un modèle juridique pénal qui sanctionne la traite d'êtres humains dans le but d'une exploitation reproductive. Les droits humains sont inaliénables. Je vous rappelle le 5e article de la Constitution qui reconnaît la primauté des droits inaliénables des personnes.
Plus de 16 projets de loi ont été présentés au Congrès ces dernières années. Aucun n'a été voté alors que la pratique a continué à s'étendre dans le pays.
Le tribunal suprême électoral du Guatemala est accusé de sortir de son rôle d'arbitre. Il a refusé une candidate de gauche pour la présidentielle de juin sous un prétexte considéré comme fallacieux, tout en permettant à la candidate d'extrême droite, la fille du dictateur Efraín Ríos Montt, de se présenter à la présidentielle, alors que la loi l'interdit pour les proches des anciens dictateurs. Une situation contre laquelle s'élève Paulo Estrada, membre de l'Organisation des familles des détenus disparus au Guatemala, et Virgilio Álvarez, sociologue et directeur exécutif du journal La Gaceta. Ils étaient les invités de Raulio Mauro à l'émission de RFI et France 24 en espagnol, Escala en París. On écoute d'abord l'analyse de Virgilio Álvarez.
Dans 3 mois et 1 jour, les Guatémaltèques iront aux urnes pour élire le président de la République, 160 députés et 300 maires. Il ne reste plus qu'un jour aux aspirants pour déposer leur candidature. Les scrutins auront lieu le 25 juin. La date limite pour le dépôt des candidatures, c'est le 25 mars, c'est donc demain. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
À 3 mois du vote, la légitimité de ces scrutins, elle est déjà remise en cause.
Oui, le tribunal suprême électoral est accusé de sortir de son rôle d'arbitre. Il a refusé pour la présidentielle une candidate de gauche, sous un prétexte considéré comme fallacieux, tout en permettant à la candidate d'extrême droite, la fille du dictateur Efrén Ríos Montt, de se présenter, alors que la loi l'interdit pour les proches des anciens dictateurs. Une situation contre laquelle s'élève Paulo Estrada, membre de l'Organisation des familles des détenus disparus au Guatemala, ainsi que Virgilio Álvarez, sociologue et directeur exécutif du journal La Gaceta. Ils étaient il y a quelques jours les invités de Braulio Moro dans l'émission de RFI et France 24 en espagnol Escala en París. On écoute d'abord l'analyse de Virgilio Álvarez.
Le processus de construction de la nouvelle dictature au Guatemala a commencé avec le départ de la Commission internationale contre l'impunité. Tout un processus de régression vers la situation du Guatemala des années 1980 a alors débuté. Le groupe au pouvoir a commencé par prendre le contrôle de la Cour suprême de justice et cela fait 4 ans que la nouvelle Cour constitutionnelle aurait dû être élue. Et si le Congrès n'en élit pas de nouvelles, c'est parce que l'actuelle Cour suprême de justice est aux ordres pour permettre le contrôle de l'ensemble du système judiciaire. C'est pour cette raison que tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice ont été obligés de s'exiler, parce qu'ils sont poursuivis par le système de justice. Résultat, ce processus électoral est déjà marqué par la fraude. Il a empêché la participation d'une force politique arrivée 4e lors des dernières élections, celle de Telma Cabrera, une responsable maya. Ils ont aussi empêché la participation de l'ancien procureur des droits humains, Jordán Rodas. La conséquence de tout cela, c'est que le système a déjà truqué le jeu. Quels que soient ceux qui arrivent au pouvoir, ils ne vont pas remettre en question le système de cooptation de la justice et de l'économie du pays.
Et plusieurs juges et journalistes qui ont justement essayé de faire respecter la loi ont dû s'exiler, Christophe, suite aux accusations et aux menaces dont ils font l'objet.
Et il y a 10 jours, le Sénat des États-Unis a demandé au président Joe Biden de prêter davantage attention aux violations des droits de l'homme au Guatemala. Paulo Estrada, membre de l'Organisation des familles des détenus disparus au Guatemala.
Nous voyons cela d'un bon œil et nous espérons qu'ils seront plus durs parce que nous pensons qu'aux États-Unis, la liste Angel, celle des responsables qui doit faire l'objet de mesures anticorruption, n'est pas suffisante. Il faut aussi considérer la loi Magnitsky parce que nous savons qu'ils ont des investissements aux États-Unis et que ce sont des chefs d'entreprise transnationaux. Et puis cela nous préoccupe que la lettre envoyée au président Biden mentionne le juge Miguel Angel Galvez, mais que pour autant, il n'y ait pas de mesures fortes par rapport à ce qui lui est arrivé. Il a été contraint à l'exil et à la démission. Nous sommes aussi préoccupés par le fait qu'actuellement, au Guatemala, le pouvoir tente de faire passer illégalement des amnisties définitives pour des personnes ayant gravement violé les droits de l'homme. Nous voyons donc d'un bon œil ce signal venant de Washington et nous espérons qu'il aidera les victimes dans leur lutte, mais surtout permettra de renforcer l'état de droit au Guatemala.
Alors, au-delà des États-Unis, que peut faire la société civile guatémaltèque face aux violations des droits de l'homme ? Virgilio Álvarez.
La société civile lutte et travaille, mais malheureusement, elle n'a pas de pouvoir. J'ai écrit un livre sur ce qui a précisément suivi les mobilisations de 2015. J'ai appelé cela une révolution qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'au final, celui qui contrôle la corruption, celui qui contrôle le Congrès, qui contrôle tout ce qui se passe en politique au Guatemala, c'est le patronat. Les grands hommes d'affaires, l'oligarchie guatémaltèque, ont toutes les clés en main. Ils participent à la corruption, à la répression, et en conséquence, ils agissent sur la présence ou non de la société civile. Si les travailleurs descendent dans la rue, ce sont eux qui disent que c'est illégal, que c'est impossible, et l'État agit contre les manifestants. Mais quand les chefs d'entreprise organise un boycott quelconque, là, c'est considéré comme de la liberté et de la démocratie.
Eso es libertad o democracia.
coup d'envoi du procès en destitution du président en Équateur. « J'irai devant l'Assemblée », a dit Guillermo Lasso, accusé d'abus de biens sociaux, qui par ailleurs vient de décréter l'état d'urgence et d'autoriser le port d'armes pour les civils, afin, selon lui, de faire face aux crimes organisés et au narcotrafic dans le port de Guayaquil. Le journal La Hora y voit une diversion, une tentative de lancer un débat sur les armes dans l'espoir de faire oublier son procès en destitution, rapporte RFI.
En Équateur, c'est aujourd'hui que commence officiellement, Justine, le procès politique du président Guillermo Lasso devant le Parlement.
J'irai devant l'Assemblée. C'est ce que dit Guillermo Lasso en réponse donc à cette procédure de destitution. Il l'a expliqué hier soir dans une interview à la télévision. Le chef de l'État équatorien est soupçonné d'abus de biens sociaux, affaire révélée par une enquête journalistique. Et ce week-end, l'un des hommes clés nommés dans cette affaire a été retrouvé mort alors qu'il était recherché par la justice. Ce samedi, Guillermo Lasso a aussi décrété l'état d'urgence et autorisé le port d'armes pour les civils face aux crimes organisés et au narcotrafic dans le grand port de Guayaquil.
Tenemos un enemigo común.
Une tentative de diversion, selon un éditorialiste du journal La Hora, pour qui le président cherche surtout à faire oublier son procès en destitution, en lançant donc ce débat sur le port d'armes. Une mesure inspirée de la politique très musclée du président du Salvador, Nayib Bukele, écrit cet éditorialiste, et une décision qui porte atteinte à la sécurité des citoyens, sans régler la criminalité, selon lui.
Bolivie. La feuille de coca doit-elle être considérée comme un produit stupéfiant ou comme une plante sacrée ? C'est ce qu'aborde un dossier de RFI.
En Bolivie, il concerne la feuille de coca. C'est de cette plante qu'est dérivée la cocaïne, drogue consommée surtout dans les pays du Nord. Mais là d'où elle provient, elle est considérée comme sacrée. En Bolivie, la coca est légale. Alors la semaine dernière, le vice-président bolivien a annoncé lancer des démarches pour qu'elle soit retirée de la liste des Nations Unies concernant les stupéfiants. Car il s'agit, selon lui, d'une erreur historique, fruit de la domination occidentale qu'il faut réparer. Élément de réflexion autour de cette plante bien particulière avec Élise Campagnol.
La coca, cette feuille qui pousse dans la région tropicale des Yungas en Bolivie, cette feuille qui est à l'origine de la cocaïne, s'est retrouvée ces jours-ci dans les couloirs feutrés des ministères boliviens. Car aux affaires étrangères, on travaille dur pour demander le retrait de la coca de la liste des stupéfiants des Nations Unies. Freddy Mamani, vice-ministre des Affaires étrangères.
En premier lieu, nous allons envoyer une lettre au secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'un dossier concernant toutes les études scientifiques et académiques sur la question. En plus de cela, nous solliciterons l'OMS afin qu'elle entame une démarche critique concernant la classification de la coca en tant que drogue.
David Choquehuanca l'a répété lors de son discours devant la Commission des drogues des Nations Unies. La coca ne doit pas être considérée comme une drogue. Elle a été punie, a-t-il dit, pour des délits qu'elle n'a pas commis. Freddy Mamani.
La feuille de coca, dans son état naturel, n'est pas un stupéfiant et ne crée pas de dépendance. Elle fait partie de notre identité culturelle, comme alimentation, comme médicament, comme élément central de la cohésion sociale. Mais en plus, si elle est retirée de la liste, cela nous permettrait d'exporter des produits dérivés, comme les infusions notamment.
Alors pour en savoir plus, il faut s'adresser à une experte. Zdenka Silva est sociologue. Elle a étudié le monde de la coca et elle est cofondatrice du musée qui lui est consacré à La Paz.
Hola, buenas. Dos tickets.
Entre deux arrivées de touristes venus en savoir plus sur la feuille dite sacrée, elle nous apprend, avant toute chose, à mâcher de la coca.
La coca se consomme toujours avec un élément alcalin. Ici, c'est de la cendre de banane. Mais par exemple, dans le nord de la Colombie et dans certaines parties du Pérou, ils utilisent du coquillage réduit en poudre. Donc, tu prends une poignée de coca, tu mets ton élément alcalin au milieu et tu l'entoures avec des feuilles. Et une fois dans ta bouche, tu ne mâches pas. Tu attends que ça s'humidifie et tu absorbes le jus. Voilà, c'est comme ça que l'on mâche de la coca.
Zdenka consomme de la coca depuis une quarantaine d'années et pour elle, ce n'est pas logique qu'elle soit illégale.
C'est l'objectif de ce musée, la dépénalisation internationale de la coca. Les Danois, par exemple, sont les premiers producteurs de la fleur de pavot et le pavot n'est pas interdit alors que c'est la base de l'héroïne. Mais dans notre cas, tout est interdit.
En Bolivie, la feuille de coca est centrale. Elle est utilisée dans les cérémonies rituelles à la terre-mère, par exemple, et les chamans andins y lisent l'avenir. Elle est consommée dans le pays entier, autant par des universitaires urbains comme Zdenka que par des travailleurs des mines pour endurer la fatigue ou bien par les alpinistes pour supporter l'altitude. C'est bien plus qu'une simple feuille.
La coca est ce que l'on appellerait un fondement culturel, comme l'argent par exemple. Si l'argent disparaissait, nos sociétés pourraient s'effondrer. Interdire la coca, c'est donc nier l'existence de sociétés plus éclairées et plus stables que les nôtres.
Mais la coca est aussi la plante à la base de la cocaïne. Et depuis un rapport américain des années 50, elle est classée comme stupéfiant. Aujourd'hui, d'autres études ont été menées reconnaissant des bienfaits nutritionnels et stimulants, notamment. Ce sont ces publications que les autorités boliviennes veulent désormais faire connaître. Mais avant que la démarche de la Bolivie aux Nations Unies n'aboutisse, il faudra encore attendre plusieurs années si la démarche aboutit.
Ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.